11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue, chers auditeurs, si vous nous rejoignez aujourd'hui. Nouvelle émission en partenariat avec l'INSERM Grand Ouest. Alors, deux mots-clés pour lancer cette émission. Ultrason, dépression. Notez comme cette rime est riche. Alors, avec moi en studio pour en parler, j'ai la chance d'avoir deux invités. Bonjour, Paul Armand Dujardin.
Bonjour.
Donc vous êtes ingénieur de recherche au CICIT Ultrason et Radio Pharmaceutique. Et avec vous, le professeur Thomas Deschmitt. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes psychiatre et chercheur à iBrain. Alors, puisque je faisais la maline en entrée d'émission en parlant de dépression, peut-être voulez-vous nous rappeler c'est quoi la dépression et sur quels critères on se base pour évaluer une dépression ?
Oui, je prendrai peut-être la parole pour répondre à cette question et je laisserai Paul Armand sur les aspects techniques, mais de ce que sont les ultrasons. Oui, c'est, alors, bon, on sait tous, hein, plus ou moins, puisque c'est une maladie extrêmement fréquente, on est tous plus ou moins confrontés, soit personnellement, soit dans sa famille et son entourage. Et vous avez raison d'essayer de faire préciser ce que sont les critères de ce trouble, puisque en effet, ce n'est pas toujours très simple de distinguer la déprime de la dépression et de la dépression maladie. Au sens où on l'entend sur le plan médical. Donc, en effet, il y a un certain nombre de critères, hein, comme vous le disiez, qui permettent d'avoir un diagnostic assez précis. Et le premier critère, certainement, c'est ce qu'on appelle en anglais un phénomène pervasif, quoi, un phénomène persistant, si vous voulez. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Et ça, c'est un critère très important, hein, qui est commun d'ailleurs à la plupart des troubles mentaux. C'est-à-dire que, contrairement à une tristesse passagère ou une déprime passagère, la dépression, par essence et dans son critère principal, eh bien, est un trouble qui dure dans le temps, souvent de plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, c'est vraiment un critère très important, puisque ça nous permet vraiment de distinguer ce qui est le nom de la déprime, de la dépression à proprement parler. Ce n'est pas le seul critère, hein. Il y a aussi des critères, en effet, de durée dans une journée. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, les symptômes qu'on va rechercher de l'ordre de la tristesse et des symptômes affectifs, eh bien, sont permanents aussi pendant une journée, sont constants dans la journée, ne fluctuent pas avec les événements, typiquement. Et puis, comme vous le disiez, il y a un certain nombre de critères symptomatiques. Alors, on ne va pas forcément tous les citer, mais les plus évidents et les plus importants, c'est en effet une tristesse pathologique qui est, encore une fois, permanente et constante, associée à une perte de plaisir aussi, ça c'est un autre critère très important. Quand on est dans une dépression caractérisée, on a aussi une perte de plaisir typiquement. Et puis un certain nombre d'autres critères que sont les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, les cognitions dépressives, hein, la tendance à ruminer et à avoir une tendance à se dévaloriser et à perdre confiance en soi. Et ça va jusqu'aux symptômes les plus redoutés, hein, que sont les idées de mort, les idées de suicide et les actes suicidaires.
Et alors, est-ce que ces symptômes, donc des personnes peut-être qui n'ont goût à rien, est-ce que ça varie en fonction de l'âge et du sexe de la personne et de son environnement social et culturel ?
Il y a, dans la dépression caractérisée, telle qu'on la caractérise justement en psychiatrie et dans le monde médical, on a une possibilité de caractériser plus de 200 types de dépression. Voilà. Déjà, rien qu'avec les critères dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, en effet, on a tendance à dire que la dépression est toujours un processus très hétérogène, rarement, justement, très homogène, ce qui complique d'ailleurs la recherche sur le sujet. Hein. Et en effet, ça, c'est uniquement quand on utilise les critères. Mais comme vous l'avez dit, il y a des variations liées à la culture qui sont évidentes. D'ailleurs, assez challenging sur le plan clinique quand on a cette ethnopsychiatrie à prendre en compte. C'est une discipline, d'ailleurs, une surspécialisation de la psychiatrie, hein, c'est l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire les variations des troubles mentaux selon la culture et les ethnies. Et en effet, alors lié à l'âge, les critères ont été construits pour que justement il y ait quand même une fiabilité assez forte, même en fonction des classes d'âge et même dans différents groupes culturel. Néanmoins, on sait bien, en effet, qu'il y a ce qu'on appelle des masques de la dépression, c'est-à-dire des formes de dépression qui se manifestent non pas par une tristesse très évidente au premier plan, mais plutôt par des douleurs, des plaintes de mémoire. Alors, c'est un sujet que je connais bien, parce que moi, je suis plutôt psychiatre de la personne âgée, donc souvent, vous savez, il y a eu certaines cultures chez la personne âgée qui fait que quand on va chez le médecin, on ne se plaint pas de son humeur et de son moral, mais on se plaint de douleur, on se plaint de perte de mémoire. Et typiquement, la plainte première de la dépression de sujet âgé, c'est plutôt une plainte de mémoire, une plainte douloureuse, plutôt qu'une plainte de tristesse à proprement parler. Ce qui est un peu différent chez l'adulte jeune et chez l'adolescent, c'est encore un autre enjeu. Mais la prévalence de la dépression, c'est extrêmement important. On estime à 5 à 10% de la population, en France en particulier, hein, est affectée par cette maladie. Et on sait que la prévalence est d'autant plus importante chez les sujets plus jeunes. Hein. Et là, en post-Covid, c'était un phénomène très très évident que les adolescents, que les post-adolescents et que les adultes plus jeunes ont été le plus impactés. Typiquement, il y a une augmentation très très, très, très nette de la prévalence de la dépression dans ces tranches d'âge.
Alors, vous évoquez des critères. Alors, ils sont définis comment et par qui ? Alors, en effet, on va parler plus en détail des effets sur le cerveau de la dépression, mais est-ce qu'il y a d'autres effets notables sur le corps ?
Oui, alors... les effets les plus connus, c'est plutôt dans le cerveau, hein, c'est-à-dire c'est un peu débattu, mais on a tendance à considérer qu'il y a une diminution de certaines hormones, ce qu'on appelle les neurotransmetteurs dans le cerveau, hein, le plus connu étant la sérotonine, puisque c'est une des pistes des traitements dont on dispose actuellement, hein, les antidépresseurs ont pour effet principal, en tout cas les plus classiques, d'augmenter la concentration en sérotonine dans le cerveau, qui est considérée comme étant diminuée dans la dépression. Mais il y a plein d'autres processus qu'on a identifiés ces dernières années. Un processus très à la mode, c'est le processus d'inflammation, l'inflammation cérébrale, et pas que d'ailleurs, aussi dans le reste du corps, est augmentée dans la dépression, comme si finalement la dépression était une agression, une espèce d'agression, comme si on avait une infection... Ou ce type d'agression extérieure qui finalement ferait que le corps réagirait par un processus d'inflammation pour chasser cette dépression ailleurs. Il y a des facteurs vasculaires dont on va peut-être un peu parler aussi puisque c'est ce qui impacte aussi un certain nombre de nos recherches, mais on sait bien que quand on fait une dépression a fortiori sévère, a fortiori récurrente, eh bien l'état de nos artères est quand même nettement moins bon que lorsqu'on n'a pas ce genre de trouble. Et on sait par exemple que c'est un facteur de risque de maladie cardiaque de type infarctus du myocarde. On sait bien, hein, c'est vraiment un facteur indépendant. C'est un facteur aussi de mauvais pronostic une fois qu'on a fait l'infarctus du myocarde et puis aussi d'accidents vasculaires cérébraux. On n'a pas encore tout à fait compris les mécanismes, on y travaille, mais on a un lien épidémiologique évident entre ces deux troubles. Également avec, c'est un sujet que je connais bien aussi, avec les maladies neurodégénératives. Voilà. On sait que la dépression dans sa vie, ça fortiori encore une fois si elle est récurrente et sévère, eh bien expose à un surrisque de maladie d'Alzheimer, par exemple, à un âge plus avancé.
Voilà, alors avant que de se pencher sur la pulsatilité cérébrale, on va faire une pause musicale. Alors en plus, vous êtes venus, vous avez choisi des pauses musicales tous les deux. Donc là, je vois Punk Aleph. Alors c'est quoi, je suis pas sûre que nos auditeurs aient déjà eu le privilège d'entendre cette formation musicale. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Eh ben, si vous choisissez la piste 5, c'est une histoire d'amour qui tourne mal en fait. Hein. Donc c'est une histoire d'amour qui tourne mal et on sait que c'est un moment potentiellement douloureux pour tout le monde, qu'on a tous à faire face à un moment ou à un autre, et c'est une chanson plutôt joyeuse, je trouve, et c'est pour tout vous dire, c'est une chanson qu'on a composée il y a quelques années, en pensant justement à ces histoires d'amour qui ont été assez pénibles avec dans nos vies, mais qui nous ont permis de rebondir, et justement on a construit cette chanson dans notre groupe qu'on avait il y a quelques années, parce qu'on tourne plus beaucoup maintenant, mais qu'on a eu la chance de produire un CD dans le cadre de ce groupe Punk Aleph, et c'est avec grand plaisir qu'on vous fait écouter.
Bon, alors, en avant, on peut dire que c'est un groupe local, alors.
Ah, c'est très local, oui, c'est très local. C'est un groupe angevin, pour être honnête, mais Angers et Tours sont des grandes sœurs.
En avant, on écoute Ô Marie, sur Radio Campus Tours.
D'accord, c'est sûr que c'est pas violent. C'est ça que ça veut dire, ok. Merci, Nico, le langage.
Could you remember last holidays? Girls in my heart, it's so confused. I was just thinking about great things of my life, and I see.
Bien, merci pour cette découverte musicale. Donc c'est Oh Mary de Punk Aleph. Alors peut-être qu'on peut dire pour nos auditeurs, voilà, je crois qu'on ne dévoile pas un secret d'état. C'est vous qui jouez de la batterie, Thomas Desmith, dans cette formation.
Oui, de la batterie. Et puis pour les enregistrements, je fais la basse aussi, pour tout vous dire.
Voilà, et bien après cette minute musicale, revenons-en à la pulsatilité cérébrale. Voilà, alors qu'est-ce que c'est la pulsatilité cérébrale?
Alors, peut-être avant de parler de pulsatilité cérébrale, on va expliquer ce que c'est.
Du jardin.
On va expliquer ce que c'est que les ultrasons, l'échographie finalement, pour nos auditeurs. L'échographie, c'est quoi? C'est une méthode d'imagerie médicale. On a tous entendu toi parler. Quelqu'un qui a fait une échographie de grossesse ou une échographie pour une suspicion d'appendicite ou autre. L'échographie, c'est quoi? C'est émettre des ondes ultrasonores, donc des ondes qui vibrent à une fréquence plus importante que le son audible. Donc c'est des petites ondes qui vont se propager dans le corps, qui vont se réfléchir à toutes les petites interfaces qu'on a à l'intérieur de notre corps, qui vont revenir. Et notre but en échographie, c'est de quantifier à quel moment cette onde revient et quelle est l'amplitude du signal qui revient. Ça nous donne une information sur la profondeur à laquelle se situe cette petite interface sur laquelle l'onde s'est réfléchie. Et puis aussi, si cette interface est plutôt réfléchissante ou pas, et ça nous donne une information sur la nature du milieu que l'onde a traversé. Donc ça, c'est pour l'échographie. On a tout un tas de techniques annexes, notamment une technique qui s'appelle le Doppler, que je vais rappeler rapidement parce qu'on va en reparler tout à l'heure sans doute. Le Doppler, c'est finalement observer la vascularisation. Comment ça marche? Et ben, avec son nom porte donne une indication sur comment ça marche avec l'effet Doppler. Donc, l'effet Doppler, c'est ce que vous connaissez tous. On a tous connu ça dans notre vie, de se faire flasher par les petits radars sur l'autoroute. En fait, c'est l'onde qui est émise alors qu'il y a un observateur en mouvement. Elle va subir un décalage fréquentiel positif ou négatif. Et finalement, c'est ce décalage fréquentiel qu'on va quantifier et qui nous donne une information de la vitesse à laquelle l'objet avance et aussi dans quelle direction. Est-ce qu'il se rapproche ou est-ce qu'il s'éloigne de nous? Et en échographie, on utilise l'effet Doppler. Qu'est-ce qui bouge dans le corps humain? De manière assez rapide et tout le temps pareil, c'est les globules rouges. Donc les globules rouges dans le sang, voilà, sont des petits éléments qui bougent dans les vaisseaux sanguins. Et en utilisant l'effet Doppler pour quantifier, on va quantifier finalement à quelle vitesse ces globules rouges se propagent, se déplacent plutôt, et ainsi permettre de voir à quelle vitesse les vaisseaux à quelle vitesse vont les vaisseaux sanguins, quoi. Ça c'était pour la partie effet Doppler. Et pour revenir à la question initiale qui était qu'est-ce que la pulsatilité cérébrale, et ben c'est une méthode d'imagerie qui a une quinzaine d'années maintenant à peu près, qui a été amenée par un scientifique américain qu'on a repris ici à Tours, qui consiste à observer un petit peu le déplacement du cerveau. En fait, le cerveau, quand il reçoit du sang, voilà, le cœur émet du sang, le sang va se propager à l'intérieur des artères. Les artères sont pulsatiles, elles vont s'élargir au moment où le sang arrive et se rétrécir au moment où le sang s'en va. Le fait qu'elles s'élargissent, ça va pousser un petit peu les tissus à côté, à savoir ici le cerveau. Et donc le cerveau va se déplacer un tout petit peu, va revenir, se déplacer, revenir, etc. Pas trop fort, sinon on a la tête en vrac à la fin de la journée. Mais en tout cas, voilà, si vous posez la question à un neurochirurgien qui opère un patient en lui ouvrant le crâne, il observe très bien cette pulsatilité. Et nous, notre but ici, c'était de ne pas ouvrir le crâne, c'était d'émettre...
hésiter à un moment donné.
D'émettre des ondes ultrasonores pour quantifier finalement ce déplacement cérébral. Et donc voilà, on l'a appelé technique de pulsatilité cérébrale. On lui a donné un petit terme en anglais, Tissue Pulsatility Imaging, pour TPI. Voilà.
Donc là, je me tourne vers vous pour qu'on comprenne bien le lien avec la dépression, du coup, sur cette pulsatilité cérébrale.
Alors, comme l'a rappelé Thomas, la dépression a un effet vasculaire, notamment sur les artères du cerveau. Et finalement, notre but depuis une dizaine d'années maintenant, c'est donc de quantifier cette pulsatilité cérébrale chez différentes populations. On va reparler des études qu'on a menées, mais quantifier chez des personnes dépressives par rapport à des personnes saines, quantifier à différents stades de dépression, qu'elles soient en rémission ou opérantes. On va quantifier cette pulsatilité pour observer finalement quels sont les effets vasculaires de la dépression sur le cerveau, quoi.
Oui, c'est-à-dire que Paul Armand est très modeste, mais en fait, ce qu'il vous a dit, c'est qu'en effet, c'est une méthode qui n'est pas si ancienne que ça, hein, parce qu'il a fallu que, disons, les techniques d'échographie, les techniques de traitement de signal, les techniques de sondes échographiques se perfectionnent pour qu'on puisse en fait mesurer quelque chose qui est extrêmement petit en fait, hein, puisque on mesure des mouvements de l'ordre du micromètre, hein,
extrêmement petit et aussi assez difficile à quantifier parce que les ultrasons, on a quelque chose pour observer le cerveau, on a quelque chose de très pratique pour le corps humain, mais pas pratique pour l'ultrason, qui s'appelle la boîte crânienne. C'est-à-dire que l'ultrason n'est pas très copain avec l'os. L'os réfléchit beaucoup les ultrasons et donc on est très embêté pour pénétrer à l'intérieur du cerveau. Alors en soi, on a trois fenêtres pour aller observer le cerveau. On a la fenêtre orbitale, donc placer une sonde sur l'œil, c'est pas très agréable et on quantifie surtout les vaisseaux ophtalmiques. On peut passer derrière le cou, ce qui s'appelle la fenêtre occipitale. Et la troisième fenêtre, c'est la fenêtre temporale. Donc on va placer une sonde d'échographie dédiée pour le cerveau au niveau de la fenêtre temporale, donc c'est typiquement entre l'œil et l'oreille. Et c'est la zone du crâne qui est un peu la plus fine et qui permet d'observer, enfin, d'avoir un large panorama de des artères principales de notre cerveau, notamment ce qui s'appelle le polygone Willis, voilà, qui contient vraiment les principales artères du cerveau qui vont pulser finalement.
Et ce que vous n'avez toujours pas dit polairement, mais je suis sûr qu'il va le faire, parce que même s'il est très modeste, il va finir par le dire, mais c'est qu'on est probablement parmi les équipes les plus avancées dans cette méthode, hein, puisque c'est une méthode qui en fait nécessite un certain savoir-faire en ultrasons en particulier. Et c'est vrai que on a maintenant depuis 10 ans, plus de 10 ans, on a une série d'études qui essaient de nous rendre compte de caractériser les déterminants de cette pulsatilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien en fait ce qui se passe dans le cerveau, on ne sait pas bien. L'hypothèse principale, c'est les mouvements de battement finalement cérébraux sont dus à finalement les artères du cerveau et la transmission des battements cardiaques par ces artères du cerveau. Néanmoins, on se rend compte que les changements dans la structure du cerveau aussi a probablement un impact à moyen terme sur ces mouvements, justement sur l'amplitude de ces mouvements. Et finalement, ce qu'on a observé, c'est que les patients qui avaient une dépression, pendant la période de dépression, avaient une augmentation de ces battements. C'est-à-dire qu'ils avaient des battements d'amplitude plus importante que les personnes qui n'étaient pas en période de dépression, ou même les patients qui, en effet, guérissaient de cette dépression.
Les patients en rémission.
Et finalement, l'hypothèse, c'est que ces amplitudes de battements du cerveau qui augmentent correspondent à des contraintes mécaniques, c'est-à-dire des dommages mécaniques potentiels du cerveau, qui pourraient rendre compte des associations dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le lien entre dépression et AVC, par exemple, le lien entre dépression et maladie neurodégénérative, le lien entre dépression et maladie du cerveau en général. Donc c'est une hypothèse que l'on creuse, on est probablement assez leader hein, dans cette recherche sur cette thématique. Et finalement, l'outil de la pulsatilité pourrait être un marqueur pronostique, voyez, chez ces patients-là, qui permettrait d'identifier parmi les patients qui ont une dépression, pour prendre l'exemple de la dépression, mais évidemment, on peut l'appliquer à plein d'autres pathologies, eh bien, seraient les patients les plus à risque et les plus et qu'il faudrait absolument suivre, puisqu'ils pourraient avoir des dommages au cerveau peut-être davantage que d'autres personnes, quoi.
Oui, comme disait Thomas, on est finalement assez... c'est leader de la technique. Maintenant, plusieurs équipes ont commencé à s'y intéresser. On a eu la chance de travailler avec l'INSERM, qui, avec des ingénieurs de recherche qui sont très compétents en traitement des données ultrasonores. Il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas rien de traiter des données ultrasonores. C'est extrêmement compliqué, notamment avec des faisceaux ultrasonores qui traversent le cerveau. Mais voilà, ça fait quand même appel à des techniques de traitement de signal qui sont assez pointues, qui nécessitent beaucoup de temps pour programmer finalement tout le code informatique qui va traiter toutes les données. C'est des données qui prennent beaucoup de temps à être analysées, parce que finalement on fait des acquisitions, on ne fait pas juste une petite image comme ça et puis pouf, ça donne l'information. C'est des enregistrements qui durent plusieurs minutes. Où il faut pixel par pixel observer quel est le déplacement de ce pixel par rapport à son petit copain à qui l'image d'après. C'est des techniques de pointe pour l'analyse de tout ça. Ça prend du temps, mais on est extrêmement content de ce qu'on a fait pour le moment. Quoi.
La modestie est tombée.
D'ailleurs, ça veut dire que il faut compléter ses compétences par des compétences en code ou en choses comme ça.
Moi, c'est un peu la compétence que j'apporte beaucoup ici. Moi, de base, j'ai une formation en imagerie générale, mais j'ai rapidement fait du code informatique pour analyser les données d'ultrason. Essentiellement, j'ai travaillé avec... pour ne pas le citer, un ingénieur de recherche qui s'appelle Jean-Pierre Ménéras qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Mais il faut vraiment savoir que c'est du traitement informatique très poussé. Faire du code, toutes les études nécessitent d'extraire des métriques différentes. Donc à chaque fois, il faut se repencher sur le code, comment il fonctionne. On change d'appareil en plus, donc il faut se repencher, tiens, comment ça marche et tout. Donc ça nécessite beaucoup d'adaptabilité au niveau du code. Et de curiosité aussi pour se dire, tiens, cette étude-là, qu'est-ce qu'on va quantifier de plus que celle d'avant, quoi.
D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée entre le moment où les relevés, en tout cas, sont faits sur le patient et le moment où vous arrivez à une donnée qui est exploitable par une équipe de recherche? Parce que, comme vous l'expliquez, il ne suffit pas de faire une photo du cerveau.
Alors, ce n'est pas du temps réel. Sans doute que dans une dizaine d'années, ça pourrait arriver. On pourrait arriver à faire du temps réel et pourquoi pas, dans un futur pas si éloigné que ça, intégrer directement cette technologie à l'intérieur des échographes qui sont utilisés à l'hôpital, par exemple. Mais pour l'instant, on fait une acquisition de quelques minutes, par exemple. L'acquisition, il faut d'abord calculer tous les petits déplacements. Ça, maintenant qu'on a un code assez efficace, ça prend quelques minutes de partir d'une matrice, d'une donnée d'ultrason à une donnée de déplacement, ça prend quelques minutes. Et ensuite, quantifier tous les déplacements et en tirer des métriques, donc des paramètres d'amplitude, de pulsatilité, de variabilité de pulsatilité, etc. En soi, pour une acquisition de 2 minutes, ça prend 10-15 minutes grand maximum, quoi. C'est pas si long que ça. C'est pour ça que je dis que dans 10 minutes, dans 10 ans, on arrivera sans doute à l'implémenter. On pourrait possiblement l'implémenter dans des échographes directement, quoi. Mais voilà, ça, c'est une acquisition de 2 minutes. Il faut savoir que dans les études qu'on mène, on ne fait pas juste une acquisition de 2 minutes. On a des protocoles qui durent jusqu'à 1 heure. Donc voilà, avec 20, 25, 30, 50 patients. Donc voilà, vous extrapolez les 2 minutes par 30 acquisitions et 50 patients, on arrive tout de suite à des traitements qui durent plusieurs jours, nuit compris, quoi. Qui tournent 24-24 et qui durent 3 jours, quoi.
Sachant qu'après, une fois qu'on a toutes ces données, il faut encore les trier, les analyser.
Ça, oui, effectivement, on a des données qui sont sorties. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui est de faire des études statistiques pour essayer de voir, l'amplitude de pulsatilité, je vais comparer entre les sujets sains et les sujets dépressifs ou les dépressifs et les rémissions. Et les études statistiques permettent de montrer où sont les différences, à quel instant de l'acquisition apparaît cette différence et sur quels paramètres ça joue, quoi.
Voilà, je vois qu'il y a consensus entre les entre les invités. Et voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ces études, en fait?
Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, les premières études, il y a quelques années maintenant, étaient faites uniquement chez les sujets, c'est des volontaires sains, où en fait, on s'est rendu compte que la stimulation visuelle et la stimulation, certaines formes de stimulation auditive, avaient un effet à changer les pulsations dans le cerveau. Ce qu'on a montré avec une étudiante d'ailleurs excellente qu'on a eu au laboratoire qui a fait son master 1 puis son master 2 avec nous, c'est que certaines formes de musique plutôt relaxantes avaient un effet aussi relaxant sur le cerveau, c'est-à-dire que vraiment on a vu les amplitudes de mouvement littéralement, on les a vues, pas tout à fait en direct comme le disait Paul Armand, mais après un traitement de signal de quelques jours, on a vu en effet les patients qui se relaxaient au point que leur cerveau se relaxait, quoi. Ils battaient moins. Leur petit battement était nettement diminué, quoi. Et puis progressivement, on s'est intéressé à la pathologie. Et la pathologie la plus évidente, probablement, c'est les pathologies vasculaires, hein, du cerveau. Avec des collègues qui commencent à s'intéresser, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cet outil aussi pour un facteur pronostic prédictif d'un accident vasculaire cérébral, quoi. C'est quelque chose qui est assez évident, probablement, comme outil. C'est vrai que ce n'est pas très spontané de se dire est-ce qu'on va utiliser cette méthode dans la dépression, hein. On est les seuls à peu près à l'avoir fait, je pense. C'est parce qu'il y a le rationnel dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce lien entre dépression et maladie cérébrovasculaire, quoi. Et on a trouvé des résultats tout à fait surprenants et qui sont répétés à plusieurs reprises. D'autres groupes les ont répétés depuis. Et puis notre dernière étude, qui est quand même assez intéressante aussi, puisque on avait pour la première fois des données longitudinales, c'est-à-dire qu'on a pu suivre des patients avant leur traitement, antidépresseurs en l'occurrence, des patients dépressifs, qu'on a suivis 8 semaines, si ma mémoire est bonne, après un traitement antidépresseur conventionnel. Hein, on a observé que chez les patients qui ont répondu, c'est-à-dire près de mémoire 50 ou 60% des participants, eh bien ceux-là avaient une vraie diminution de la pulsatilité cérébrale et des amplitudes de battement. Ce qui nous font dire que eh bien, les antidépresseurs conventionnels ont tendance à restaurer un état plus, moins dangereux, disons.
Conventionnel, quoi.
Voilà, plus standard et moins à risque de complications cérébrales, disons.
Alors, puisque vous évoquez ces travaux autour de la musique classique, vous avez mené avec une étudiante, peut-être qu'on peut rappeler son nom d'ailleurs.
Oui, très juste. Marta, alors elle était d'origine italienne.
Siracusa.
Siracusa, très juste.
Voilà, donc là vous avez justement pensé à apporter un morceau de musique donc, qui était dans cette étude, je crois. C'est quoi ?
Alors, c'est Marta, donc Marta qui a vraiment pensé le protocole du début à la fin dans le cadre de son master ici au laboratoire et qui en fait. C'est dit, elle a de nombreux intérêts, Martha, hein, mais notamment pour la musique classique. Elle joue de la musique, elle est chanteuse aussi lyrique. Et elle voulait tester, hein, c'est elle qui a monté on l'a aidé à monter le protocole. Et c'est elle qui a apporté ces extraits, de musique classique. Elle avait plusieurs hypothèses, en fait. La première hypothèse, c'était que les musiques excitantes aurait un effet à augmenter les battements du cerveau. En l'occurrence, on n'a pas observé ça, mais la musique qu'elle a utilisée à ce moment-là, c'était une musique bien connue qui est, c'est pas très grave, c'est une musique que je suis sûr que je vais la retrouver, je vous le dirai tout à l'heure, mais on n'a pas eu cet effet sur les musiques excitantes, en revanche sur les musiques relaxantes, on a eu cet effet, et principalement avec cette musique-là. Donc avec la Bayadère, qui à ma connaissance est un ballet. Je suis moins spécialiste que Martha, mais je crois que c'est un ballet. Et si on a la chance de l'écouter, vous verrez peut-être qu'il y a une récurrence dans certaines parties de la musique qui ont un effet berceuse. En tout cas, c'est comme ça qu'on a interprété, que c'est probablement cet effet berceuse qui participe à la relaxation du cerveau également, en plus de la relaxation de l'ensemble du corps, hein, évidemment, et puis de l'esprit, bien évidemment, mais de ce qu'on a pu observer grâce à ces mesures de pulsatilité cérébrale.
En fond, derrière nos voix, auditeurs, auditrices, vous écoutez donc la Bayadère, acte 3, Entrée des ombres, voilà, rappelons-le. Donc c'est cette musique, en tout cas des extraits qui ont été, fait écouter, je ne suis pas très français ce que je dis, que des volontaires sains ont pu écouter donc pour mesurer l'effet sur la pulsatilité cérébrale. Alors est-ce qu'on peut dire que la musique nous veut du bien ?
Oui, littéralement. En tout cas, veut du bien à notre corps, au moins, certainement notre esprit aussi, mais au moins notre corps. Et ça fait écho évidemment à tout courant de ce qu'on a pu appeler, ce qu'on appelle encore la musicothérapie, hein, dont on sait, dont on connaît les effets. Moi, le sujet que je connais bien, c'est justement sur la dépression, mais aussi dans les maladies neurodégénératives. Hein, on sait que ça a un effet évident d'apaisement et qui nous permet parfois, voire souvent, quand c'est mis en œuvre de façon structurée, et bien d'éviter le recours à des psychotropes, par exemple, qui ont évidemment beaucoup plus d'effets indésirables, quoi. Donc oui, bien sûr.
Alors après, il y a peut-être quelques sceptiques derrière leur poste qui pourront dire, bah oui, mais les moods playlist, par exemple, finalement, est-ce qu'on se convainc pas soi-même que si on écoute telle musique, on est de bonne humeur? Du coup, est-ce que c'est... Quel est l'effet, en fait? Est-ce que c'est la musique qui a de l'effet, ou alors est-ce qu'on se convainc que...
Bah, certainement les deux, mais ce qui est sûr, c'est que si vous écoutez un morceau nouveau, par exemple la Bayadère, peut-être que tous nos auditeurs ne le connaissaient pas, eh bien ça aura quand même un effet sur vous, très certainement. Indépendamment du choix que vous aurez fait de votre playlist et de l'avoir construite, quoi. Donc, mais évidemment, il y a probablement aussi... un processus d'auto-persuasion lorsqu'on construit sa propre playlist et qui a un effet sur son propre bien-être, ce qui peut parfois compliquer un peu les choses, justement, et que, dans le sens où on peut s'enfermer dans un schéma qui est un peu toujours le même, et heureusement, vos émissions sont là pour ouvrir d'autres perspectives musicales, par exemple.
Merci, voilà, Radio Campus, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Et alors, puisqu'on rigole, c'est le moment aussi de rappeler qu'il y a une autre étude qui est menée par votre équipe. Donc c'est l'étude ProtoBrain, voilà, sur le protoxyde d'azote. Alors là, avec du gaz hilarant, alors peut-être que c'est bon de rappeler de quoi il s'agit et comment s'utiliser.
Oui, merci. Alors oui, en effet, alors le gaz hilarant, d'abord pour rappeler que... On est ici dans une utilisation du protoxyde d'azote, qui est le protoxyde d'azote médical, hein, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on connaît bien en utilisation courante en médecine, puisqu'on l'utilise depuis probablement plus de 100 ans maintenant. En tout cas, on le connaît depuis plus de 100 ans et probablement on l'utilise de façon très couramment, très courante depuis au moins une cinquantaine d'années, dans l'indication des soins douloureux. Par exemple les soins dentaires, par exemple les sutures chez les enfants, par exemple le travail chez la femme enceinte, par exemple les ponctions lombaires chez la personne plus âgée, par exemple. Donc c'est un produit qu'on connaît bien, et ça, la façon dont on l'utilise à l'hôpital, par exemple, c'est sous un format particulier qui est un mélange gazeux de 50% de protoxyde d'azote et 50% d'oxygène. Ce qu'on appelle le MEOPA, le mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote. Et finalement, on est quand même très loin de, et je propose de le préciser ici, de l'utilisation qu'on peut faire parfois récréative de ce produit-là, qui est du protoxyde d'azote, dans ce cas-là, dans l'utilisation récréative, qui est constitué à 100% de protoxyde d'azote.
Sans oxygène.
Sans oxygène, c'est vraiment du protoxyde d'azote pur, et c'est un gaz, il faut quand même qu'on rappelle que c'est un gaz toxique à cette concentration-là, à la fois... Il y a un risque de pulmonaire important, hein, d'échange, qui perturbe l'échange d'oxygène, et par ailleurs qui peut aussi avoir des conséquences sur le métabolisme, le métabolisme de la vitamine B12 en l'occurrence, et qui peut avoir des conséquences neurologiques parfois gravissimes, principalement dans des utilisations régulières ou répétées, mais c'est un produit évidemment potentiellement toxique. Et finalement, le produit que nous on utilise dans le traitement de la dépression est un produit, comme je viens de vous le dire, plutôt médical, avec une composition plus sécurisante ou sécurisée que le protoxyde d'azote pur. Et là aussi, les études qu'on est en train de mener, ont trouvé leur origine dans deux équipes en réalité. Une équipe américaine aussi, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qui avait publié une première étude assez robuste qui montrait que des patients avec une dépression extrêmement sévère, vraiment extrêmement sévère, avaient, pour un certain nombre d'entre eux, avaient quand même un effet d'amélioration très significative lorsqu'ils étaient soumis à ce gaz, donc c'est 50% de protoxyde d'azote, 50% d'oxygène, pour une durée assez conséquente d'une heure quand même. Voilà. Et ça a lancé un certain nombre de recherches, puisque les thématiques de recherche, une des thématiques principales, disons, psychiatrie dans la dépression, c'est comment est-ce qu'on va essayer de dépasser les antidépresseurs conventionnels, dont on sait qu'ils ont une certaine efficacité mais relativement limitée néanmoins, surtout de par leur délai d'action. On sait qu'il faut typiquement un bon mois, sinon deux, avant de pouvoir juger de l'efficacité d'un antidépresseur classique. Alors que les recherches actuelles tentent justement à essayer de découvrir des antidépresseurs d'action rapide. Alors a entendu parler de la kétamine peut-être, qui a maintenant un produit qui a l'autorisation de mise sur le marché sur certaines formes particulières et qu'on utilise dans certains cas dans la dépression résistante. Et nos travaux, ainsi que d'autres, tendent à montrer que eh bien, le protoxyde d'azote pourrait aussi faire partie de ces antidépresseurs d'action rapide. Et donc, on a mené une première étude dont les résultats sont en cours de publication, on l'espère, une bonne revue internationale, on l'espère, on croise les doigts. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude ? On a soumis des patients dépressifs résistants, des jeunes femmes en l'occurrence, à une heure de ce gaz hilarant, de ce méopa. Et on a réalisé une IRM cérébrale avant-après, et également des mesures en ultrasons avant-après et pendant la diffusion du gaz, qui a donc duré une heure, pour la plupart des patients, pour ceux qui l'ont pas trop mal toléré. Parce qu'il faut rappeler quand même que la tolérance n'est pas... On peut parfois être problématique, surtout en termes de nausées, de vomissements. On a quand même eu un nombre de nausées. On était très surpris de voir quand même des jeunes femmes qui n'ont pas toujours très bien toléré ce produit, surtout en termes de nausées, de vomissements. Et finalement, ce qu'on a observé, c'est que quand on a suivi ces personnes pendant une semaine, on s'est rendu compte que à peu près la moitié d'entre elles avait un effet bénéfique extrêmement évident. Sur le plan clinique, typiquement, elles sortaient de leur dépression en quelques jours. Et ce qu'on a mesuré, notre objectif, c'était de savoir ce qui se passait dans le cerveau de ces personnes qui s'amélioraient. On a observé deux choses. On a observé d'abord en IRM que finalement, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, on avait observé une réorganisation de la connexion, ce qu'on appelle la connectivité dans le cerveau, des neurones dans le cerveau, de sorte que quand on a regardé une partie du cerveau qui nous intéresse, en l'occurrence le cortex singulaire antérieur dans un certain nombre de connexions cérébrales, eh bien, avait tendance à diminuer sa connectivité avec le reste du cerveau, avec en tout cas une certaine partie du cerveau. Et ça, on sait assez bien que c'est ce qu'on observe dans d'autres antidépresseurs comme la kétamine, surtout lorsque il y a un effet à diminuer la tendance à ruminer. Vous savez, c'est un peu le problème, c'est un des problèmes de la dépression, c'est que le cerveau tourne en boucle, souvent sur des choses très, très négatives. Et de fait, lorsque l'on expose la personne à une heure de méopa, eh bien, c'est comme si on déconnectait finalement cette partie du cerveau pour faire en sorte que les ruminations arrêtent de tourner en boucle. Et c'est ce que nos patients nous disaient. Donc ça, c'est la première chose qu'on a observée. Et la deuxième chose, c'est que avec les ultrasons, on a observé d'abord, de façon très nette pour tous les participants, dès les premières minutes d'exposition, une augmentation de la pulsatilité qui faisait x3, x4, dans les amplitudes de battement, quoi. Donc avec le protoxyde d'azote, tout de suite votre cerveau se met à battre de façon plus importante. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que les patients qui avaient la plus grande augmentation, en tout cas l'augmentation la plus continue, sont ceux qui allaient le mieux répondre aux antidépresseurs, au protoxyde d'azote. L'hypothèse que l'on a fait ici, c'est que probablement l'effet vasodilatateur du protoxyde d'azote, qu'on connaît assez bien en fait, participe à l'effet antidépresseur, peut-être en distendant la barrière hématoencéphalique, et donc ça devient un peu technique, hein, pardon, mais en favorisant le passage justement des molécules du protoxyde d'azote directement dans les cibles cérébrales qui nous intéressent. Voilà.
Alors, je me tourne vers vous, Paul Armand Dujardin. Alors, sur une étude comme ça, là, sur ces jeunes femmes, par exemple, pour faire ces mesures, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous les avez équipées, appareillées, je ne sais pas quel est le terme le plus exact, justement, pour faire ces mesures ?
Alors, effectivement, c'est ce que j'explique aux participants quand ils viennent. L'échographie, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est une sonde reliée à un appareil. La sonde, elle ne tient pas toute seule. Il faut quand même la tenir et il faut essayer de faire en sorte que la sonde bouge le moins possible durant toute la durée d'exposition. Pour ça, on a équipé les participants avec... un petit casque. Alors au départ, on avait un casque de soudure qu'on a un peu retravaillé, mais on s'est un peu mieux équipé quand même. On a maintenant des casques de réalité virtuelle où on a enlevé la réalité virtuelle parce que ça ne sert à rien. On veut juste un support pour la sonde. Donc un casque avec un petit bras articulé qui va tenir la sonde. Alors pourquoi on fait ça ? Pour deux raisons. Alors, la première, c'est que comme je l'expliquais tout à l'heure, on essaie d'imager le cerveau toujours à peu près au même endroit. La deuxième, c'est que si je tire la sonde à bout de bras pendant toute une heure, mon épaule elle va commencer à dire qu'elle a un peu mal, quoi. Donc voilà, les deux raisons, c'est pour observer toujours au même endroit et puis éviter les troubles musculo-squelettiques de l'opérateur qui tient la sonde. Donc le patient est équipé d'un casque de réalité virtuelle sur lequel on va fixer la sonde d'échographie. On lui met le masque pour l'administration du protoxyde d'azote, enfin, du MEOPA pour être plus précis. On lui met le masque en dessous, le casque de réalité virtuelle vient plaquer le masque d'administration du MEOPA et finalement tout tient à peu près tout seul, quoi. Donc finalement c'est pas très compliqué, c'est juste un casque qu'on met sur la tête qui tient tout seul, qui tient la sonde d'échographie, qui fait les acquisitions au moment où moi je lui demande voilà, émet les ondes et arrête d'émettre des ondes. Finalement ça consiste uniquement en ça, quoi. Donc on demande aux participants d'être parfaitement, enfin d'être le plus relaxé possible. Elles viennent souvent avec un petit peu de stress parce que voilà, c'est quand même une étude clinique, c'est la première fois qu'elles vont avoir du protoxyde d'azote. Donc c'est pas rien, mais on essaie de les détendre un petit peu, de les mettre dans les bonnes conditions. On leur demande aussi, ça fait écho à ce que disait Thomas, de venir à jeun maintenant, parce que pour éviter les nausées. C'est vrai qu'on a eu quelques petites mauvaises surprises, dirons-nous. Donc maintenant elles viennent à jeun le matin. Donc, et tout se passe bien finalement. C'est donc juste un casque, un masque d'administration du protoxyde d'azote, et finalement ça suffit, quoi. Et le petit appareillage, c'est pas un échographe d'un service qu'on prend. On prend un petit échographe portable qui enregistre des données en mode recherche, quoi, dirons-nous. C'est-à-dire que les données brutes de l'échographie et pas la simple image, quoi. Voilà.
Et ça dure combien alors ce protocole?
Alors, on fait des acquisitions avant, donc moi je demande à Thomas de me laisser 10-15 minutes avant l'administration, le temps de réexpliquer un petit peu aux participants aussi ce qu'on va faire, le temps de faire quelques acquisitions qui durent, je fais deux acquisitions de 2 minutes chacune. Ensuite, une médecin et une infirmière viennent dans la chambre pour gérer l'administration du MEOPA. L'infirmière administre le MEOPA et la médecin est là pour contrôler si tout va bien pendant toute la durée d'administration qui dure une heure. Donc pendant une heure, moi je vais faire des acquisitions au moins les 12 premières minutes et ensuite toutes les 10 minutes. Comme disait Thomas, c'est surtout pendant les premières minutes où l'augmentation de pulsatilité est la plus importante. Voilà. Mais on continue d'enregistrer toutes les 10 minutes jusqu'à la fin de l'administration d'une heure. Et puis ensuite, on met les patients sous oxygène aussi. 10 minutes d'oxygène médical, histoire de rétablir le cerveau bien comme il faut, d'oxygéner le cerveau bien comme il faut après cette dose de MEOPA. Et puis, je continue à faire quelques acquisitions derrière. Voilà, deux acquisitions de 2 minutes, encore une fois. Mais c'est surtout, on a vraiment observé l'évolution pendant l'administration et pas forcément pendant les mesures après, quoi.
Et donc ça, cette étude-là, elle est terminée. Du coup, vous expliquiez qu'il y a des résultats
Elle était en deux temps. L'étude Protobrain, qu'on appelle pilote, qui était une étude monocentrique, donc menée uniquement au CHU de Tours, pour lequel il y a des jeunes femmes dépressives et un groupe de témoins, si je me souviens bien. Cette étude-là, pilote, est terminée. Nous sommes en train de rédiger l'article correspondant. Et puis, en ce moment, on mène une étude multicentrique avec nos confrères de Nantes et de Rennes, voilà, pour avoir le plus de participants possible. Chaque participant va faire ses propres acquisitions et on va voilà, avoir un large panel de personnes qui vont pouvoir participer à l'étude et avoir beaucoup de résultats à exploiter.
C'est-à-dire que là, on a été surpris des effets, hein. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à avoir des effets aussi nets chez certains patients. En tout cas, tout le monde ne répond pas, hein. Il y a quand même des personnes qui sont résistantes, hein. Mais quand on répond, souvent on répond bien et vite et de façon relativement prolongée. Et donc, on a essayé de développer davantage cette thématique. La première étude dont Paul Armand parlait à l'instant, en effet, celle qui est terminée, celle dont on espère qu'elle sera publiée très prochainement, c'est une étude de physiopathologie. On regardait ce qui se passe dans le cerveau. Les autres qui arrivent, et je profite pour faire un peu de promotion si vous me permettez, on en a une en ce moment où on cherche des participants qui, l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité dans un essai cette fois-ci assez robuste, vous savez, un essai randomisé contre placebo. C'est-à-dire que la moitié des personnes auront en effet une heure de myopa, l'autre moitié aura une heure d'air médical. Et typiquement, personne ne sait, en dehors de l'infirmière qui utilise le produit.
Et la médecin.
Et le médecin. Le médecin qui est le médecin qui surveille, hein, pas le médecin qui évalue. Personne ne sait dans quel groupe les patients se trouvent. Et en particulier, pas le patient lui-même, évidemment. Et ça, c'est une étude donc, d'efficacité. On cherche à montrer que le myopa est en effet efficace comme antidépresseur, d'action rapide, dans une population particulière qui est la population des plus de 60 ans. Des plus de 60 ans, là aussi, il y a tout un rationnel, puisqu'il y a une participation des processus vasculaires dans la dépression, en particulier de la personne âgée. Et ce sont des facteurs de résistance aux antidépresseurs classiques. Plus vous avez des lésions vasculaires étendues liées à l'âge en particulier, plus vous avez un risque d'être résistant aux antidépresseurs conventionnels. Et donc, le myopa pourrait avoir un effet, de par l'effet vasodilatateur, pourrait finalement faire fi de la résistance liée aux facteurs cérébrovasculaires. Donc, de fait, on pense que ça peut être un outil particulièrement adapté dans la dépression de la personne âgée, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas. Nous avons au Centre d'investigation clinique au CHU de Bretonneau un protocole en cours. On a inclus, je crois, une vingtaine de participants à peine. Pour le moment, on voudrait que 60 personnes au total y participent, incluant Rennes et Nantes. Donc le protocole est toujours ouvert. On pourra peut-être vous mettre les coordonnées du centre d'investigation clinique à disposition.
Voilà, à bons entendeurs. Alors peut-être qu'on peut préciser, si on souhaite participer à ce genre d'études, donc c'est évidemment de son plein gré, de façon tout à fait volontaire. Et est-ce que c'est gratuit ?
Oui, c'est non seulement gratuit, et tout est pris en charge. C'est-à-dire que les transports sont pris en charge, que toute la procédure est prise en charge. Il y a l'IRM dont vous bénéficiez, évidemment, est pris en charge. Donc évidemment, on ne paye absolument rien. Et évidemment, tous les frais engendrés sont remboursés, bien sûr.
Voilà, j'insiste peut-être lourdement, mais c'est parce que certaines études sont rémunérées. Donc là, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas. Alors, pour être honnête, on a voulu le faire, mais on a été retoqué par le comité d'éthique, pour tout vous dire, qui nous a dit non, on ne peut pas autoriser. J'étais surpris aussi. Dans la mesure où on n'est pas dans une étude avec des volontaires sains, mais avec des patients, et qu'il y a un bénéfice potentiel, on n'a pas eu l'autorisation de rémunérer les participants. Donc,
Indemniser,
excusez-moi, oui, en effet. D'indemniser les participants. Donc, tout est pris en charge et remboursé, et c'est gratuit, mais il n'y a pas d'indemnisation propre à l'étude au-delà de ça.
Et comme vous le disiez, la participation est parfaitement volontaire, complètement encadrée, c'est-à-dire qu'il y a une signature d'un consentement et la personne est libre à tout instant, si elle ne le sent plus au dernier moment, d'annuler son consentement. Donc n'hésitez pas vraiment à venir vous informer.
Et puis au-delà de ça, on a un centre vraiment extrêmement... Alors il y a le centre d'investigation technologique qui travaille Paul Armand, mais il y a aussi le centre d'investigation clinique qui est un autre module de rattaché au CHU et à l'INSERM, qui est extrêmement confortable pour tout le monde, hein, mais vraiment hein, pour les chercheurs quand on doit mener une étude, parce que c'est extrêmement rigoureux, on a une disposition, un plateau technique et du personnel extrêmement compétent et très agréable. Et puis pour les patients eux-mêmes, je crois, enfin pour les participants eux-mêmes, ils sont ravis la plupart du temps, même très, je crois, systématiquement, de venir participer aux études au CHU. Donc vous êtes les bienvenus.
Bon, bah, bons entendeurs, hein, si des gens viennent se promener à Tours, voilà, vous savez où aller aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, est-ce que le CHRU de Tours, en tout cas Tours, est reconnu particulièrement à l'échelle nationale sur ses recherches autour de la dépression ? Parce qu'il y a un centre de ressources autour de l'autisme, mais est-ce qu'il y a une chose équivalente sur la dépression ?
Oui, alors c'est très, très, très bonne question, puisqu'en effet, on a un centre expert dans la dépression résistante qui a été labellisé, en effet, il y a quelques années maintenant, rattaché au CHU, qui s'inscrit dans un réseau de centres experts nationaux, en effet. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que parmi les thématiques d'excellence du CHU dans la recherche, il y a trois thématiques. Il y a les thématiques autour de l'infectiologie, des anticorps monoclonaux et de la neuropsychiatrie en général, qui inclut, comme vous l'avez dit, une thématique forte autour de l'autisme, mais aussi autour des troubles de l'humeur. Donc finalement, un des axes d'excellence du CHU de la recherche est bien la neuropsychiatrie, dans lequel il y a une dimension neurologique, hein, comme la sclérose latérale amyotrophique, comme certaines recherches dans le domaine de la métabolomique, de l'ophtalmologie, de l'ORL. Bon. Et puis cette dimension psychiatrique qui regroupe principalement, mais pas uniquement, l'autisme et la dépression, et donc cette lisibilité au niveau national, voire international. Et je crois, et d'ailleurs j'ai la chance de porter moi-même cet axe de recherche de neuropsychiatrie du CHU, qui va être évalué d'ailleurs très prochainement, et donc on espère l'évaluation favorable évidemment.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors cette émission va déjà toucher à sa fin. Merci beaucoup à vous deux d'être venus jusqu'à notre modeste radio étudiante. Donc merci Thomas Deschmidt, psychiatre et chercheur à iBrain. Et alors Paul Armand Dujardin, ingénieur de recherche au CICIT. On va vous laisser le mot de la fin. Comment vous souhaitez terminer cette émission ?
Oh ben là je ne sais pas. Hein, c'est... non. Comment dire ? Comme on l'a dit, si vous connaissez du monde qui veut participer à l'étude, nous on prend. Hein, on est toujours en recherche de personnes. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à toutes ces techniques, à toute cette recherche qui est faite dans le domaine de la santé, qui sont passionnantes et qui me passionnent moi depuis une douzaine d'années déjà. Quoi. Et je suis très heureux d'avoir travaillé avec Thomas là-dessus.
C'est moi qui ai fait le dernier mot de la fin, mais c'était juste pour dire que c'était réciproque. Et si je puis me permettre quand même, puisque malheureusement, Paul Armand a choisi, je ne sais pas si tu l'as mentionné jusque-là, mais a choisi de ne pas continuer son contrat avec nous. Mais en tout cas, j'en profite pour te remercier chaleureusement et publiquement de toutes ces années pour avoir travaillé avec toi, et notamment sur cette thématique de la pulsatilité cérébrale. Merci Paul Armand.
Merci.
Voilà, merci encore à nos deux invités. Donc cette émission est retrouvée en podcast sur notre site radiocampustour.com et à réécouter aujourd'hui même à 17h. Il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible et bien sûr à l'écoute de nos excellents programmes. Bonne journée à tous et à toutes.
Coup d'œil à la sauvette pour pas trop reconnaître les taches de café qui résident dans les bas-fonds de ma moquette. La chambre agresse ma rétine, le rêve s'envole en solex. En fume l'air qui se dessine, son coup d'œil obsolète. Mon estomac est poète face au cerveau englouti, alourdissant le sol soumis à mes paupières engourdies. La platine tourne en roue libre, cherche le bon outil, me tambourine, me demande un son cool qui pantouflit. J'ai la galette en vinyle incrustée dans la tiraille de ces disques, je chine assez loin pour voir la muraille. Une ouverture d'esprit sur tellement de styles de zik que les esprits se brise sur chaque écoute prise de risque. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprends qui comprend, mais qui comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilométrage c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'un être sur place. Tous tes kilomètres font juste percer. Tu vois pas l'univers, juste un monde et ses revers qui t'a encerclé. Le kilomètre c'est pour la surface. Voici le carnet de voyage d'un être sur place. Si les problèmes du quotidien se noient dans le vide, c'est qu'ils sont en bois et mon monde en temps de scie. Ton monde réel n'est qu'un gouffre d'ennuyeuses gamelles face aux pages que j'ouvre qui s'écartèlent sans repli. Mes livres sont ma pec, mon cartel et les idées bastonnent. Si bien que si je les ferme, ils disent que je déballonne. Esprit tellement élargi par des questions formelles. Comment aider Yakari à civiliser John Wayne? Les mondes me bousculent, c'est ce qui sent gravitation. L'art a pris tant d'avance sur la mondialisation. L'imaginaire invente ce que la vérité récupère et nous emmène à la lisière de nos futures actions. C'est un voyage comme on n'a pas idée. Non, comprends qui comprend, mais qui comprend l'humanité. Même l'horizon jalouse mes limites qui fondent et l'étendue sensorielle de la rencontre des mondes. Tous tes kilomètres font juste perdre.